du Trisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac.
Philippe-Vincent Foisy est avec nous pour parler de politique. Antoine Robitaille va se joindre à nous tantôt. Monsieur Foisy, bonjour.
Hey, bonjour.
Philippe-Vincent, on a posé un micro à la Chambre des communes à Ottawa. On écoute ce qui se passe. Ah non, OK. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas rien. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas.
C'est tranquille, hein?
Oui, c'est hallucinant. C'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Après, mettons si on avait une élection normale là, après 4 ans, puis bon, ça fait 4 ans, puis là, on s'en va en élection, puis là, le gouvernement a des choses à faire, mais prend le temps de les faire comme il faut, puis qu'il n'y a pas de pandémie, puis qu'il n'y a pas une élection au gouvernement minoritaire où on s'est fait casser les oreilles, que c'était urgent d'agir, puis il fallait absolument réélire le gouvernement Trudeau pour qu'il puisse avoir les mains sur le volant pour gérer la pandémie. On pourrait se dire, c'est normal. Je te dirais, c'est parfait. On a un mois de break. Tout le monde a le temps de se reposer après une campagne électorale qui est complètement éreintante. Mais là, c'est son troisième mandat. On se pose des questions sur où ça s'en va, tout ça. À moins qu'il y ait un gros, gros, gros remaniement. Mais on ne sait même pas à quel moment on va encore avoir le cabinet. Donc, sincèrement, c'est un peu inexplicable.
Comment peux-tu ne pas être cynique après ça?
Ben c'est difficile. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions sur Justin Trudeau, son entourage. Est-ce qu'il s'en va? Parce que c'est un peu incompréhensible. Puis si vous regardez ça, puis vous dites, ben Justin Trudeau a fait ça de façon nanana, puis vous avez une vision cynique de la chose, c'est un peu difficile pour moi de vous convaincre de ne pas être cynique en ce moment, là, sincèrement. Là. Puis j'aime ça, convaincre les gens de ne pas être cynique, parce que c'est important la politique, puis c'est important de participer, de s'en informer. Et là, j'entends Antoine taper.
Ouais, arrête de taper, Antoine, on t'entend. Là. Je sais que t'es là.
Mais bon, en ce moment, c'est un peu difficile là, quand on regarde ce qui se passe ce qui ne se passe pas à Ottawa, de ne pas être un peu cynique. Là, c'est
Bon, et tu veux faire une comparaison. Bonjour, M. Robitaille. Bonjour.
Oui, bonjour, Benoît.
Bonjour, merci de participer à l'émission aujourd'hui. Tu veux faire une comparaison, Philippe-Vincent? Arrête de taper sa gramouille. J'entends le casser. ton commandant 64, là. Bon, tu veux faire une comparaison, Philippe-Vincent, entre Christian Dubé et le gouvernement fédéral?
Oui, ben parce que Christian Dubé qui a dû reculer sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, puis il y en a qui disent, ben de toute façon, Ottawa va faire la même chose. À la fin du mois, la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, à un moment donné, lui aussi n'aura pas le choix, mais je regarde la situation à Ottawa, puis quand même, elle est un peu moins dramatique, là, en termes de bris de service, en termes de soins à la population. Quand on est dans le système de santé, à Québec...
Pourquoi tu réagis?
Ça touche les gens.
Mais tu sais, le fédéral, ça touche à qui, là? Je veux dire, les seuls hôpitaux qu'ils ont, c'est pour les militaires, pour les autochtones. C'est bien plus complexe pour un gouvernement du Québec, provincial, qui a les deux mains dedans, là, tout le temps, qui est au front, là. Donc, le gouvernement fédéral, je me souviens, moi, Jean Charest, un jour, m'avait dit, c'est sûr qu'à Ottawa, on fait des grandes politiques, alors qu'à Québec, on a vraiment les deux mains dedans, Antoine.
C'est vrai, il y avait les deux mains dedans, M. Charest. jusqu'au coude, d'ailleurs.
ceci dit, s'il y a comme 4 % ou 5 % des gens de l'Agence du revenu qui sont pas vaccinés, vous allez attendre quoi, 2 heures de plus?
On va pas remplir notre formulaire de rapport d'impôt.
On va retarder la déclaration de revenus d'un mois. Bon.
Avec pénalité puis intérêt, sans doute.
Ouais. Pour rebondir sur ta comparaison intéressante, j'avais lundi, dans ma chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon, justement, lui faisait une comparaison entre... Non, mais il faisait une comparaison entre...
Oh yeah, OK, oui. Renvoie dans une constitution, toi.
L'exception religieuse à Ottawa et à Québec est pas du tout traitée de la même façon quant à l'obligation vaccinale. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'à Ottawa, évidemment, Justin Trudeau a dit la liberté de religion l'emporte sur tout. Donc, vaccination obligatoire, oui, mais tu sais, si t'as une religion, même si c'est le pastafarisme, c'est ce qui t'empêche de... Oui, d'accord, tu vas avoir tout de suite l'exception. Alors qu'à Québec, c'est non. Hein? Bon, il y a eu un report, là, mais théoriquement, là, on voulait pas donner d'exception religieuse. Et Patrick Taillon disait qu'il y a une évolution dans la jurisprudence qui est assez intéressante, et c'est Ottawa qui est plus collé à la vieille jurisprudence, qui donnait finalement toute la préséance à la religion. Pourquoi? Parce que c'était, il y avait pas de test objectif. Comprends-tu? On avait beau dire, ben, je sais pas moi, le voile ou le turban, c'est pas une obligation dans la religion. Les juges disaient, ben, non, si t'as une croyance sincère, tout le reste de la société doit faire de la place. Je caricature, mais tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Alors que il y a une jurisprudence récente où, notamment pour le turban dans le port de Montréal, par exemple, et d'autres, je pense que c'est le casque obligatoire en Colombie-Britannique, où les juges commencent à dire, ben non, il faut réintégrer un peu d'analyse objective des choses. Est-ce que la religion oblige vraiment? Et est-ce que pour le bien de l'ensemble de la population, il n'est pas bien qu'on mette des limites, justement, à la liberté de religion? Et donc, Taillon, il disait, ben, Québec est plus en phase avec la dernière jurisprudence. Je trouve ça intéressant, puis je voulais juste le souligner.
Mais donc, politiquement,
c'était lundi à la haut sur la colline.
Politiquement, c'est pas payant, par exemple. C'est plus payant pour Justin Trudeau de toujours être à genoux devant tous les religieux et les intégristes.
Sauf que ce que les libéraux disent à Ottawa, c'est que, un, ils respectent selon leur lecture les chartes. Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Et deux, c'est qu'il y a tellement peu de religions qui officiellement sont anti-vaccins en ce moment. Les plus grandes religions et même leurs ramifications sont pas mal toutes pro-vaccination.
OK, mais c'est qui est anti-vaccin, pouvez-vous me dire? C'est qui ce monde-là? D'où ils sortent? Ils ressemblent à quoi, Zagramouille? Ils ont-tu un piton dans le front?
Mais ça ressemble à... Ça, je veux dire,
tu les vois dans les manifestations?
Ah, c'est
ceux
ça?
Qui sont anti-vaccins,
Il y en a plein d'autres
qui sont...
Ça donne
pas confiance en l'humanité, ça.
Non, mais il y en a plein d'autres qui sont juste sceptiques, qui disent, je suis pas sûr, de toute façon...
Il y a un chauffeur de taxi l'autre fois qui m'a dit, moi, là, je me fais pas vacciner parce que c'est un vaccin en préparation qui a pas été vraiment homologué.
Il y a eu 5 milliards de doses.
J'ai eu tous mes autres vaccins, mais celui-là, j'ai peur, il a été préparé en catastrophe.
Ça, je l'entends souvent, moi aussi.
Mais c'est niaiseux, il y a eu 5 milliards de doses administrées. 5 milliards.
Ben oui, c'est ça.
Ça a été homologué par Santé Canada. Les vaccins ARN messager, on travaille là-dessus depuis les années 80. Puis il y a eu d'énormes essais cliniques. T'sais, pour compenser le fait d'avoir des essais cliniques sur la durée, on a eu des essais cliniques énormes avec d'importantes quantités de gens. Mais c'est pour ça aussi que
il serait peut-être bon que le gouvernement fasse un autre point là-dessus.
Vraiment,
Le fait que les vaccins sont sécuritaires. C'était en pédagogie, il faut répéter. Là.
Non, puis de les expliquer, parce que les gens, moi, qui m'écrivent, là, ils disent, l'enjeu qu'on a, c'est que ça ne fait que me protéger moi-même. Ça ne m'empêche pas de transmettre la maladie, ça ne m'empêche pas de l'attraper, ça ne m'empêche seulement que d'être hospitalisé. Ce qui n'est pas vrai. Ça réduit les risques de la contracter. Et si tu ne contractes pas la maladie, tu ne la transmets moins, tu la transmets pas la maladie. C'est vrai que tu peux l'avoir, c'est vrai que tu peux la transmettre, c'est vrai que tu peux être hospitalisé, mais il y a une notion de risque qui est mal expliquée, puis au cours du prochain mois, les gouvernements, les médecins ont cette pédagogie-là importante à faire.
Puis en pédagogie, il faut que tu dises ce que tu vas dire, tu le dis, puis tu répètes ce que tu viens de dire. Il y a trois moments en pédagogie.
Qu'est-ce que tu viens de dire?
Mais tu le répètes.
Tu dis,
c'est ça.
Tu répètes,
C'est bon. Alors,
non, t'annonces ce que tu vas dire.
Oui.
Tu dis ce que tu t'as à dire.
Par exemple.
Puis après ça, tu répètes.
Fais-moi un exemple de ça.
Ben, par exemple.
Antoine va nous parler.
Jean qui a les deux mains dedans, là.
Qu'est-ce qu'il y a? Voyons donc. J'ai donné une bonne entrevue hier à Pierre Bruno, d'ailleurs, sur les frontières.
Ah oui, hein?
T'as-tu entendu ça?
Non, je l'ai raté.
Jean Charest, tout ce qu'il avait à dire, ça a vraiment été une catastrophe pour les entreprises. T'étais là,
Mais encore.
Mais il poussait. Il y avait un spin, moi, on me disait qu'il venait de gens comme M. Charest, je sais pas si ça venait de lui directement cet été, qui disait qu'il mettait de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il ouvre la frontière, parce que selon eux, là, les États-Unis allaient absolument ouvrir la frontière avant nous de façon unilatérale, puis ça allait être totalement la catastrophe. On allait avoir l'air d'une gang de clowns.
Une chance.
Hey, c'est pas du tout ça qui s'est passé.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme entreprise, Jean Charest?
Dans Inc.
Sonia Lebel, gouvernement Legault qui fait...
Ben oui, tu l'as eu en entrevue, Sonia Lebel.
Oui, elle va bien.
Elle t'a sans doute répété qu'il y a un consensus très clair,
oui.
que les éducatrices en CPE doivent être mieux payées. Donc,
oui.
Augmentation de 17 % pour ceux qui n'étaient pas
On va dire 12. On va dire 12, parce que c'est 12 % pour la majorité des éducatrices, sauf
ouais.
celles qui font 40 heures semaine, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le réseau.
Mais là, on est en attente de la réaction des syndicats. Et justement, moi, j'ai demandé aux trois partis d'opposition quelle était leur réaction. Justement, au Parti libéral, on dit, mais là, on va attendre de voir ce que les syndicats vont dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'on passe par-dessus la tête des syndicats. Et Marc Tanguay, là, qui est le critique, à qui j'ai parlé brièvement au téléphone, il dit, ben est-ce qu'ils ont pensé à l'impact aussi sur la différence entre les milieux non subventionnés et privés
oui.
et les autres? On
oui.
impose aussi, non seulement salarial, mais on impose une nouvelle organisation du travail. Les fameux 40 heures. Alors,
excusez-moi là, mais
c'est ce que Marc Tanguay
Antoine,
a dit. Je ne me fais que le porte-parole.
Oui, oui, oui. Mais corrige-moi, je me trompe là. Mais moi, je me souviens d'avoir fait des entrevues avec des travailleurs, des travailleuses de CPE, de garderie, à qui le gouvernement libéral venait de couper les fonds, qui me disaient là, il va falloir qu'on coupe, qu'on fasse des lunchs congelés parce qu'on peut pas avoir de cuisinier 5 jours semaine. Il faut les couper à 3 jours semaine. On va couper les protéines. Aussi,
écoute,
parce qu'on n'a plus de budget.
Sais.
Vrai ou faux?
Je sais, écoute, sur ce dossier-là, comme sur d'autres dossiers, les libéraux, ils ont de la misère à se refaire une virginité. Là. Et là, ils
difficile.
Disent qu'il faut que ça devienne un droit.
Il y a même pas une virginité,
droit,
juste être fréquentable.
Ils ont déposé un projet de loi pour dire qu'il faut qu'il y ait un droit à la place en garderie, en service de garde. C'est quelque chose, ça veut dire, comme Lacombe, le ministre Lacombe l'a dit, ça veut dire qu'on va nationaliser les services de garde. Parce que les gens sont souvent pas au courant, puis ils se retournent vers le ministre, mais c'est quand même un service qui... C'est pas un palier gouvernement, un palier du système d'éducation, là, les services de garde, là. Ça a été fait, comme on l'a dit l'autre fois, là,
mais
c'est
les CPE,
des OBNL.
Mais les CPE, ils ont des règles à suivre, là. Ils ont
ouais.
un syllabus à suivre. Ils ont des
ouais.
choses à enseigner aux enfants, là.
Ben, oui.
ben donc on devrait les considérer à ce titre-là. Les garderies
oui.
familiales, c'est une autre affaire, là. Mais les CPE, il y a des règles.
Ouais, mais pourquoi il y a certains enfants qui auraient le droit d'y avoir accès puis pas d'autres?
C'est la bonne question. C'est la bonne question.
C'est parce que c'est ça la question.
Québécois parle d'un effet de toge pour l'opinion publique, mais c'est nettement insuffisant. On est très loin du rattrapage salarial massif dont ont besoin les éducatrices.
OK.
Puis,
je viens d'avoir un...
dit, on aurait dû annoncer, au lieu de faire une annonce comme ça, on aurait dû pas maintenir l'offre déposée en juillet, le 12 ou le 17%, mais faire une bonification substantielle de cette offre-là. Ça, c'est Christine Labrie.
Mais c'est ce qu'ils font, là. Ils déposent ça. Là, ils disent, si j'ai bien compris, vous avez 17% de plus sur votre paye là, puis on négocie
oui.
pas. C'est, on part de là. Puis après, on va négocier, puis on va en ajouter, puis on va s'entendre. Mais
ouais.
je trouve ça intéressant comme façon de négocier, là, pour montrer la bonne foi. On vous le donne, le 17, là, on vous l'a offert, on vous le donne, puis à partir de là, on va négocier encore.
C'est
pas
ça.
Pire.
Non, mais là, le gouvernement reprend la balle, reprend le pouvoir dans cette négociation-là. Là. Il l'avait perdu avec les grèves, il l'avait perdu en ne parlant pas au cours des derniers jours, en laissant en laissant toute la place aux syndicats. Là, Sonia Lebel vient de reprendre ce débat-là de son côté.
Avant qu'on se quitte, parlons des forces bandées canadiennes, parce que ça n'a pas d'allure, là, les gradés là, qui sont accusés où il y a des allégations d'inconduite sexuelle, là, c'est 13 à la douzaine.
Ouais, le problème, il est vraiment majeur. Là. Depuis un bon moment, on a de la difficulté à donner des promotions à certains hommes dans les forces armées canadiennes parce que il y a des allégations qui ressortent. Le dernier dans la liste, c'est Trevor Cadieux qui devait devenir le commandant de l'armée de terre. Et là, quelques jours avant sa nomination, l'annonce de sa nomination, on a appris qu'il y avait des allégations concernant des inconduites sexuelles de la part d'une vétérante. Et là, l'armée a décidé de le tasser, de ne pas le nommer, de ne pas lui donner sa promotion, le temps de faire la lumière sur cette affaire-là. Monsieur Cadieux qui dit, regardez, là, je n'aurai pas la crédibilité, même si il nie toutes ces allégations. Il dit, nommez quelqu'un d'autre parce que les forces armées ont besoin d'avoir quelqu'un de complètement irréprochable à leur tête. Ça montre par contre encore l'enjeu avec qu'est-ce qu'on fait quand on a ces enjeux-là au sein des Forces armées canadiennes. Quel est le système? Quelle est la solution? On dit, on a pelleté ça dans le cours de la juge Louise Arbour. On avait déjà eu un rapport de la juge Marie Deschamps. Ouais. Sincèrement...
Ça prend un autre ministre... juge, je pense.
Mais non, ben là, à ça un moment un donné, juge, je pense juge. Que ça prend un autre ministre. Ben,
bon. Ça, monsieur,
je l'aurais dit ici. Je l'aurais dit.
Ouais, monsieur Adjan?
Monsieur Sajjan.
Sajjan, oui, c'est
peut-être
ça.
Peut-être que... Ben, Marc Garneau, hein? En tout cas, je dis ça, mais je dis pas ça.
Marc Garneau, c'est un autre dossier. Sajjan, moi, il y a toujours...
C'est la bouche ouverte.
C'est la bouche ouverte. À jamais pas savoir quoi dire, tu sais. Puis il est allé en entrevue partout, puis c'était la même cassette, les mêmes réponses imbéciles.
Et il dit tellement rien. Hein.
C'est hallucinant.
C'est comme, il est ceinture noire dans l'école, Mélanie Jolie, Justin Trudeau. Là.
Redoutable. Pourquoi Trudeau le garde en poste? C'est pour le vote.
Ben, il y avait le symbole. Il y avait un ministre de l'Ouest. Il y avait le fait qu'il a quand même servi dans les Forces armées canadiennes.
Oui, il a menti.
Ce même service-là.
Il a menti.
Oui, c'est ça. Fait que, ouais, voilà. Mais c'était à l'époque des symboles. Est-ce que le gouvernement va être encore dans son époque des symboles ou ça va changer? Il y avait moins peur de tasser des symboles féminins, des symboles masculins.
Les femmes se font agresser dans l'armée.
Il y aurait comme été Rambo en Afghanistan.
Ah ouais.
Qui était en charge de l'opération. Hein,
puis c'est lui qui a dit à Barack Obama était où.
mais pendant ce temps-là, sérieusement, il y a des femmes qui sont agressées dans les Forces armées canadiennes.
Ben oui.
Parce que tu as un ministre de la Défense incompétent. Puis
assis sur ses mains, là, qui n'a pas mis en place ce que Marie Deschamps recommandait, c'est-à-dire un système extérieur pour gérer les plaintes. Quand on a des chefs d'état-major, le grand boss de l'armée, qui ne peut pas vraiment faire l'objet d'enquête parce que le processus... Ben, et sous son commandement, et on se pose des questions vraiment sur la crédibilité de cette organisation-là. Il y a du ménage, il y a de la culture à changer.
Ouais.
Pour que ça change, ça va prendre un vrai coup de barre que le gouvernement, pour l'instant, ne semble pas prêt à donner.
Puis qu'on arrête les enquêtes internes des Forces armées, puis qu'on laisse les policiers faire le travail.
Ah oui, puis le système judiciaire civil. Mais après, l'armée a aussi un problème. Là. Je veux dire, arrêter de nommer des gens qui sont sous enquête ou qui n'ont pas un passé complètement propre.
Oui, puis couper la porno sur les bases militaires, peut-être ça va aider les généraux.
Ben, donnez-en plus pour qu'ils ne se retournent pas vers leurs collègues.
Oui, c'est ça. C'est soit la catharsis, soit le mimétisme.
Ah, merci. Ça, c'est...
Non, mais je pense que ça serait la catharsis, c'est vrai.
Oui, parfait. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je te fais confiance.
C'est le défoulement.
Oui, je sais.
C'est le défoulement par le truchement des images.
Oui, des fois, je fais le niaiseux.
Ou le mimétisme, c'est le contraire.
C'est quoi?
Ben, c'est copier. C'est copier ce que tu vois dans les images.
Attention.
C'est tout le débat sur la violence des jeux vidéo. Est-ce que c'est une catharsis ou est-ce que c'est le mimétisme?
Ouais. Le jeu du calmar.
Ouais, exactement.
Alors, débat. Et moi, je vous salue d'une façon spéciale, OK?
Oui. Okay. Ah, merci. C'est Antoine Robitaille qui quitte avec son clavier entre les dents. Merci, Philippe-Vincent Poisier.
Salut.
Merci, à demain.